la parasha qui t'avoue, comme vous savez, dans laquelle il y a ces brachot et ces klalot, ces brachot et klalot absolument terribles. Les klalot sont terribles. Et on pourrait être effrayé en se disant, mais alors, c'est insupportable, on n'a aucune chance de s'en sortir. Alors, en vérité, Moshe Rabbeinu, il est au dernier jour de sa vie, il va convoquer tous les Bnei Israël, tous, hommes, femmes, enfants, et puis tous les gens, quelle que soit leur appartenance sociale, quelle que soit la hiérarchie, Rachechem, Shiftechem, vos chefs, vos chefs de tribu, les anciens, les officiers, enfin, tous les gens, y compris les enfants, les femmes, les guérim, et dans ces guérim, même ceux qui ont essayé de nous rouler un peu et qui se sont fait passer pour des guérim sincères, qui avaient le droit d'entrer dans le clan d'Israël, certains cananéens, comme vous savez probablement, et Moshe Rabbeinu, quand il s'est aperçu de la tentative de nous tromper, il a assigné ces gens-là, ces cananéens, qui se sont convertis, à fendre du bois. C'est eux qui doivent travailler, fabriquer le bois, amener le bois. Et il y a eu un autre épisode à l'époque de Yoshua aussi. Et là-bas, on les a astreints à aller puiser l'eau. Donc c'est, dans l'échelle sociale, c'est des gens dont le boulot, si vous voulez, est, ou la charge, est la plus basse. Donc je ne sais pas très bien de quelle échelle, mais enfin bon, je ne sais pas pourquoi c'est obligatoirement bon, eux, on les a mis à ce niveau-là, ils ne peuvent pas en sortir, en fait. Donc, tout ce monde-là est là, et devant Hachem, comme leur dit Moshe Rabbeinu, vous êtes devant Hachem, votre Dieu, tous là, tous. Et ce qui va se passer, c'est que il est important que vous entriez dans une relation avec Hachem qui s'appelle une relation d'alliance, de brite. D'accord? L'ovra bivrit Hachem Elokecha, ou be'alato, ce brite, il est couplé avec un serment, c'est-à-dire en fait ce que Hachem, tous ces klalot là, ces brachot et les klalot. Donc vous entrez dans la relation d'alliance avec avec Hachem, une relation d'alliance, c'est quelque chose de très très important. Ça a commencé très tôt, l'alliance a commencé avec Abraham Avinu. Ensuite, elle a été répétée, etc. Il y a eu aussi une alliance, par exemple, au Sinaï. Mais certains disent que l'alliance du Sinaï, elle était un peu fragilisée, en tout cas par le veau d'or, et qu'il a fallu cette alliance au moment où Moshe Rabbeinu va disparaître, au moment où les Bnei Israël vont entrer en Eretz Israël, il les fait entrer dans une nouvelle alliance. Alors, donc cette alliance, c'est une alliance que Hachem est Koret Imcha Ayon. On dit en Lashon HaKodesh, on dit Koret Berit. Koret, ça veut dire trancher une alliance. Parce que, comme Rashi explique, vous savez probablement, on le sait dans l'alliance des Brit Belar Tarim de Avraham Avinu, et pour sceller une alliance, ils avaient l'habitude de prendre un animal, de le couper en deux, et puis que les deux parties qui sont en alliance passent au milieu de les deux parties de l'animal. De la même manière que ces deux parties, en vérité, forment une unité, c'est une façon de dire on est unis, on est un. Brit, c'est être un avec l'autre. Et c'est une alliance, bon, simplement, pourquoi faire cette alliance? Le Ma'an, afin que Hakim Otra Hayom Lo Le'am. Cette alliance, elle a pour but de vous installer, de vous faire, vous tenir en quelque sorte avec Hachem, comme étant son peuple. Alors, on avait vu un petit peu avant que, voilà, vous êtes devenu un peuple, aujourd'hui vous devenez un peuple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un peuple? Alors, d'abord, la graphie du mot « âme », qui est « ein » même, c'est la même graphie que le mot « im », qui veut dire « avec ». Donc, le « âme », c'est les gens qui sont avec, qui sont d'abord les uns avec les autres, et surtout, ils sont, puisqu'ils sont le peuple d'Hachem, ils sont « im Hachem », ils sont avec Hachem. Donc, c'est la définition de « am Hachem », en quelque sorte. Et donc, vous êtes le peuple pour Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, le peuple pour Hachem? Comme si Hachem avait besoin d'un peuple. Vous voyez dans le texte, si vous l'avez devant vous, c'est écrit « Leman hakim otra hayom lo le am ». Qu'est-ce que c'est que ce lamed, en fait? Alors, c'est être, littéralement, pour un peuple. Et puis, lui, il sera pour un Dieu, en fait. Comme si, au fond, être le peuple d'Hachem, comme pour Hachem, être un Dieu, c'est un rôle étrange, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est le peuple d'Hachem? C'est quoi le peuple d'Hachem? Les autres peuples, ils existent parce qu'ils ont en commun certaines choses. Et nous, en quelque sorte, comme peuple d'Hachem, qu'est-ce qu'on a qui fait que on est le peuple d'Hachem? On a bien sûr les mitzvot d'Hachem. C'est-à-dire, on a cette relation particulière dont on a déjà parlé à Rosh Hashanah, c'est-à-dire que Hachem nous sommes le peuple d'Hachem, il est notre roi, mais ça c'est le côté, il va jouer le rôle d'Elohim. Mais nous, être son peuple, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que le peuple d'un roi par exemple? A priori, c'est un peuple sur lequel on doit voir qu'il est le peuple de ce roi-là, qu'on a quelque chose du roi, des qualités du roi, de la force du roi, de la puissance, etc., de ce roi doit se voir sur le peuple de ce roi. Sinon, il n'est pas le peuple de ce roi, s'il est un peuple parmi les autres. Mais si on veut montrer qu'il est un peuple bien précis, il faut qu'on voit en quoi il est le caractérisé comme ce peuple-là en particulier. Donc nous, évidemment, pour être le peuple d'Hachem, ça veut dire que si on voit le clan Israël vivre, on devrait pouvoir voir ce qu'Hachem veut d'un peuple, donc de l'humanité. Donc quel est le projet d'Hachem? Ça devrait se voir sur la façon dont nous vivons. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, puisque, au fond, le monde a été créé par Hesed, par Hachem, mais pour que nous le reconnaissions, pour être reconnus, parce que c'est bien pour nous que nous le reconnaissions. Donc, si on a été créé effectivement pour cela, qu'on reconnaisse Hachem, ça veut dire qu'il faut que dans notre conduite, on voit Hachem, si on peut parler comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Voir ce qu'Hachem veut d'un peuple. On pourrait dire quelque chose du genre « noblesse oblige ». Ben, ça dépend quelle noblesse, qu'est-ce qu'est la noblesse en question. On a des obligations parce qu'on est le peuple d'Hachem. Bon, il y a chez nous des questions qui se posent, qui ne se posent pas a priori, en tout cas pas de cette manière-là chez les autres. Par exemple, chez nous, il y a une notion suivant comment le clan Israël se comporte. Ça peut faire ce qu'on appelle un « chilul Hachem ». On peut avoir des comportements qui sont une façon de profaner Hachem. Bon, parce qu'on dira, c'est ça le peuple d'Hachem, c'est ça. Donc, c'est ça. Eux, ces gens-là, ils représentent la Torah, ils représentent ce qu'Hachem veut du monde, ce qu'Hachem veut de l'humanité. Eh bien, c'est beau. Donc, il y a un paradoxe parce que la perfection divine est telle que la condition humaine n'est presque pas capable d'être le peuple d'Hachem. Hachem ne demandera pas plus que ça. En vérité, Hachem ne va pas nous demander les choses impossibles. On voit tout de suite, si on veut, peut-être on y reviendra, mais regardez tout de suite ce qui se passe, ce que le pasouk dit à la fin de, du chapitre, là en question, dans le verset 28. Donc, pasouk dit « Anistarot Hachem Elokeinu, ve'aniglot lanu ulvanenu, ad olam, la'asot et kol divrei Torah azot. » C'est-à-dire, les nistarot, les fautes qui seraient commises en cachette. C'est-à-dire, voilà, il y a un juif qui se cache et au fond de son garage, au fond de sa cave, il est en train de pratiquer l'idolâtrie. Est-ce que le clan d'Israël peut être tenu pour responsable? On n'en sait rien, on n'a pas connaissance de cela. Alors Hachem dit clairement, ça je vous demande pas. C'est Hachem Elokeinu, c'est Hachem lui-même qui le sait, c'est lui qui règle le problème. Ve'aniglot, mais par contre, les choses, les fautes ouvertement pratiquées, en fait, l'anou ou le vanenu, c'est ces fautes qui sont connues, qui sont révélées, les nôtres, celles de nos enfants, jusqu'à la fin des temps, en réalité, toujours, non. Nous devons avons l'obligation, la asot et kol divrei Torah azot. En fait, nous en réalité, on est comptable de toutes les fautes, kol divrei, toutes les transgressions de toutes les paroles de la Torah. Celles-là, nous en sommes comptables. C'est-à-dire que il se peut vraiment qu'il y a des fautes qui sont commises ouvertement, si on peut parler comme ça. Il y a celles qui sont commises par inadvertance, et celles qui sont commises volontairement, c'est bémézide. Et là, ici, Chazal explique qu'en réalité, ce qui est archi grave ici, c'est que même les fautes qui sont commises par inadvertance vont, on va voir dans certaines circonstances, être considérées sur le même plan comme aussi graves que celles qui ont été commises volontairement. Dans l'hypothèse où ces fautes qui ont été commises par inadvertance, elles viennent de ce que je ne me suis pas intéressé à ce que j'avais à faire. C'est vrai que la faute, quelqu'un n'a pas fait la faute volontairement. Mais comme c'est la résultante d'un désintérêt, c'est comme si, effectivement, c'est comme si ça avait été fait volontairement. On va y revenir. Et sur celles qui ont un chumash, vous voyez, il y a des points à partir sur l'anou, le vanenu. Et ça veut dire que c'est important. C'est nous et nos enfants. C'est toutes les générations jusqu'à la fin. Donc il y a une responsabilité, on va voir. Responsabilité du clan d'Israël sur toute la durée de l'humanité, en fait. Toute la vie de Olam Hazeh, dans ce monde-ci. Donc, pour revenir, on entre dans cette relation d'alliance. Avec, à la clé, effectivement, si on n'est pas à la hauteur de l'alliance, alors il y a ces clalotes. Maintenant, ces clalotes, ces malédictions, ne sont pas des punitions. C'est pas des sanctions, simplement, t'as pas fait ce qu'il fallait, je te sanctionne. On voit très bien que c'est présenté autrement, complètement autrement. C'est présenté de la façon suivante. Si tu fais pas ce qu'il faut, alors je t'enverrai un message. Il va y avoir quelque chose, un message qui te rappelle, un rappel à l'ordre, en fait. Mais si tu ne veux pas écouter le rappel à l'ordre, je t'enverrai un rappel à l'ordre un peu plus parlant, un peu plus fort. Et comme ça, de proche en proche, va augmenter la puissance du rappel à l'ordre. Mais pourquoi ce rappel à l'ordre? Parce que Hachem ne nous lâche pas. Nous sommes dans un brit. Nous sommes dans une alliance. On ne peut pas sortir de l'alliance. On ne peut pas. On n'est pas... Hachem a dit, à la suite de... Moshe Rabbeinu a fait promettre à Hachem qu'il ne nous remplacerait pas comme peuple. Donc, même si on n'était pas à la hauteur, Hachem continuerait avec nous et il ne remplacerait pas. Hachem a accepté. Et là, il n'y aura pas d'autre peuple qui sera comme nous et nous, on ne sera pas remplacés. Donc, exclusivité est effectivement la durée. Et par conséquent, puisque on ne sera pas remplacé et que le projet divin doit bien se réaliser, alors Hachem va nous obliger à faire avancer le projet divin, quitte à nous faire mal, mais des fois très mal, mais ce sont des messages. Et finalement, bah, tu finiras bien par comprendre. Un moment où les gens ne peuvent plus se raconter d'histoire, sont bien obligés de se dire, voilà, c'est un message. Et la question va se poser, effectivement, mais pourquoi tout ça est arrivé, etc. Tout le monde va poser la question et on va répondre, bah, parce que les Bnei Israël, on va le voir dans le texte, parce qu'ils ont abandonné l'alliance. Ils ont essayé d'abandonner l'alliance. Alors, ce que le texte dit ici, donc, Hachem va accepter d'être aussi notre Dieu. Comme il l'avait annoncé, il te l'avait juré, il te l'a dit et il l'avait déjà en fait promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et l'alliance en question, elle n'est pas seulement avec les gens qui sont là, mais même les gens qui ne sont pas là, c'est-à-dire toutes les générations sont engagées dans cette alliance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem va accepter d'être notre Dieu? Alors, je répète ces choses que j'ai probablement déjà dites, peut-être c'est pas nécessaire de le répéter, mais peut-être quand même, tous les peuples ont un Dieu, sauf le clan Israël. Nous n'avons pas de Dieu. J'utilise ce mot de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle un Eloah, un Dieu, de chaque peuple. Qu'est-ce que c'est exactement l'Eloah de chaque peuple? Moi, j'ai, enfin, je ne sais pas si c'est tout à fait adéquat, mais je me dis que pour l'instant, la meilleure image que j'ai de cela, c'est la culture de chaque peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, c'est Hachem Elohim qui dirige le monde. Mais, quand Hachem a organisé, en quelque sorte, les peuples en peuples, avec chacun sa langue, avec chacun ses spécificités, quelque part, il a dit que chaque peuple va entendre Elohim à sa manière, en quelque sorte. Tout le monde aura les Sheva Mitzvot des Bnei Noach, mais pour le reste, ils auront la latitude de faire des lois comme ils le veulent. Il faut faire des lois, mais ils peuvent choisir des lois. La seule condition, c'est que ces lois ne soient pas contradictoires avec les Sheva Mitzvot des Bnei Noach. Ils ne peuvent pas faire une loi selon laquelle on a le droit de tuer ou de voler, etc. Ça, ils peuvent pas. Mais pour le reste, les choses qui sont pas en contradiction avec les Sheva Mitzvot des Bnei Noach, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc chacun va faire ce qui lui convient. Et donc, c'est normal que chaque peuple ait sa façon à lui de vivre et de vivre même en reconnaissant d'une certaine manière Hachem, bon, mais selon chacun selon ses habitudes, chacun selon ce qu'il est. Les Bnei Israël n'ont pas des lois de ce type-là. Parce que nous, on est branchés directement sur la chaîne. Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu a toujours voulu. Si. Il a toujours voulu que ce soit comme ça. Et quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, OK, je pardonne, mais je vais vous envoyer un malar qui va vous guider, etc. C'est-à-dire une forme de, une divinité intermédiaire qui évidemment obéit à Hachem, mais qui aura une certaine rigidité, comme la culture de chaque peuple donne une certaine rigidité. D'accord? C'est-à-dire que les Français vont continuer d'appeler les Anglais des plum pudding, et les Anglais, les Français, des froggies. Chacun considère que par exemple, la nourriture de l'autre, c'est un scandale ambulant. D'accord? Il y a des goyim qui pensent qu'on n'a pas le droit de manger du chien, ou du chat, etc. Et puis il y en a d'autres qui pensent que, pourquoi pas, je veux dire, ça c'est leur problème, à la limite. Alors, la spécificité de chacun. Mais nous, on n'a pas. Alors, Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui a dit, je vous envoie un malach, Moshe Rabbeinu lui a dit, moi je marche pas. Si c'est comme ça, tu peux m'effacer de ton livre, ça marche pas. J'accepte pas. Et Hachem a cédé, en fait. Quand Moshe Rabbeinu disait, ou bien on garde la ligne directe, en quelque sorte, avec Hachem, parce que la ligne directe avec Hachem, c'est justement le fait que ça ouvre tout. Ça ouvre le maximum de possibilités. C'est dans le même sens, si vous voulez, que ce qu'Hachem a dit au Bnei Israël quand il ne voulait pas accepter la Torah Shebaal Peh, qu'il a retourné la montagne sur eux. D'accord? C'est pas du tout une montagne qui allait les écraser. J'ai souvent déjà donné comme exemple. On peut regarder la montagne retournée sur les Bnei Israël comme si, en fait, comme si vous retournez un ver sur une mouche. Vous n'écrasez pas la mouche. La mouche est prisonnière. Elle va finir par crever, effectivement. Quand elle sera complètement épuisée, elle va crever. Mais vous ne l'écrasez pas. Donc, ce qu'Hachem a dit au Bnei Israël, voilà, je retourne la montagne. Si vous n'acceptez pas la Torah, Shamtek vous ratrem, vous allez mourir ici. C'est pas que vous allez être écrasé. Mais ça veut dire, l'horizon sera borné par la forme de la montagne, par le bord, en quelque sorte. Imaginez un panier tourné. Bon, le bord du panier, là, ça borde. Et donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la Torah, elle ouvre l'horizon. Et l'horizon est bouché. Et donc, on est mort d'une certaine manière parce qu'on n'a qu'un certain nombre, peut-être même très grand, peu importe, mais un nombre fini de possibilités. Tandis que, avec la Torah, c'est une certaine ouverture complète vers même des choses impensables qui sont pas du tout ce que les gens lisent. Même quand ils lisent la Torah, les gars ne comprennent absolument rien. D'accord? Il y a même des crétins, ça s'appelle aussi créationnistes, etc. C'est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Nous, on n'a jamais pensé une chose pareille. C'est n'importe quoi. Ils savent pas lire la Torah et c'est normal. C'est pas fait pour eux. Donc, ce que Hachem va accepter d'être notre Elohim, il va jouer le rôle d'Elohim, ça il va nous guider comme si il était un Dieu, mais évidemment c'est lui, et par conséquent c'est pas un intermédiaire, c'est pas une figure intermédiaire comme les Elohim de toutes les nations. C'est Hachem lui-même, donc c'est complètement ouvert. Donc Hachem accepte de jouer ce rôle qui est très difficile à comprendre dans la mesure où il est évidemment l'Elohim du monde entier. Ça veut dire d'être l'Elohim d'un petit peuple rikiki, je veux dire, qu'est-ce qu'on est, quelques millions. Bon. Et là, Hachem dit, mais moi j'aime bien c'est parce que vous êtes peu nombreux que je vous ai choisi. Bien, donc c'est ça, donc l'alliance c'est ça, entrer là-dedans. Et ensuite, donc l'alliance qui est faite avec ceux qui étaient là-bas et avec nous, toutes les générations. Vous savez, donc une mention ici tout à coup, vous savez que nous avons été en Égypte, vous savez comment comme on y a vécu. Vous savez ce qu'on a vécu effectivement parmi tous les peuples par lesquels on a passé. Vous avez vu leurs abominations, vous avez vu les excréments, leurs idoles de bois, de pierre, d'argent et d'or, etc. Vous avez vu que tout ça, c'était rien du tout. Ça ne valait rien du tout. Et alors, maintenant, mise en garde. Peine de peur que. Yesh bachem ish o isha. Peut-être qu'il y a parmi vous, vous êtes là devant Hachem, et Moshe Rabbeinu nous met en garde, et il dit peut-être qu'il y a un homme, une femme, une famille, ou une tribu, qui dans son cœur se dit cause toujours, et en fait il est déjà, cette personne ou cette tribu est déjà, elle est poné à yom, me'im Hachem Elokeinu, c'est-à-dire, elle est déjà détachée de l'être avec Hachem Elokeinu, donc elle est détachée du peuple, elle se considère pas comme un élément du peuple, et il pense aller la lechet la vod Elohe Agoyim Ahem, justement d'aller servir les dieux de ces peuples-là, vous les avez vus, et de peur qu'il y ait peut-être parmi vous une racine qui produisent du poison et qui, entendant justement ces brachot et les klalot, se disent, se bénissent, itbarech bilvavo. Ils bénissent son cœur, c'est-à-dire ils se renforcent. Bénir, c'est amplifier, oui. Ils se donnent du cœur en disant, shalom yeli. Bon, pour moi, tu vas très bien. Kibishriut libi elech. Je ferai ce que je veux exactement. Les mans fot araba et atzmea. Bon, c'est des expressions pour dire effectivement, je vais me laisser aller à tout. Alors, ici, mon cher Abel nous dit quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Ça veut dire, lo yehove Hachem selo achlo. Hachem ne voudra pas lui pardonner. C'est pas qu'il lui pardonnera pas, il ne voudra pas lui pardonner. Au contraire, la colère divine s'enflammer contre lui, et toutes les clalotes qui sont dites vont lui tomber dessus. Et son nom sera effacé du monde. Et Hachem le singularisera pour le mal parmi toutes les tribus d'Israël, avec tous ces clalotes qui sont liées avec l'alliance, qui est écrite dans ce Sefer Torah. Et donc, si maintenant, il se passe quelque chose, peut-être à une échelle un peu plus grande, Ve'amar Ador Aharon, la dernière génération, vos enfants, qui viendront après vous, et aussi, Anochi Asher Yavo Me'eretz Rechoka, y compris des peuples qui ne vous connaissent pas du tout, mais qui vont voir Veraou et Makot, ils vont voir l'état de la terre, voir toutes les maladies, tout ce que Hachem a envoyé, comparé à Sdom et Amora, etc. Rien ne poussera, c'est voilà. Parce que Hachem a mis tout ça, il a envoyer sa colère contre la terre de ce peuple, en fait, parce que le peuple s'est éloigné d'Hachem. Et les gens demanderont, mais qu'est-ce que c'est que cette colère divine? Qu'est-ce qui peut bien l'avoir justifiée? Alors ils finiront par dire que ce soit vos descendants ultimes, ou même des gens qui viennent des peuples qui ne vous connaissent pas du tout, mais qui vont comprendre que c'est à la chair à vous et brit Hashem Elokim avotam, à chair karatimam b'otziotam eretz Mitzrayim, v'yelchu v'yavdu Elohim acherim, ishtachavu lahem, Elohim asher lo yedaum. Ils vont aller servir des divinités étrangères, ils vont se prosterner devant eux, des divinités qu'ils ne connaissent pas, qui n'ont jamais rien fait pour elles, pour eux. Et la colère d'Hachem s'est tournée sur cette terre pour leur amener toutes les clalotes qui sont écrites. Et Akadosh Baruch Hu, en réalité, les a même arrachés à cette terre et il les a exilés, envoyés dans un autre pays. Et après vient ce verset qu'on a déjà vu, donc les Nistarot, etc. C'est-à-dire que les Bnei Israël, au bout d'un moment, quand ils ont entendu toutes ces clalot, ils ont eu peur, ils ont dit on n'y arrivera jamais. Alors Hachem leur a dit pas du tout. Vous savez, vous avez passé par l'Égypte, etc. Vous avez passé par des situations très très difficiles, mais vous vous en êtes toujours tiré, parce que Hachem vous en a tiré, en fait. Eh bien, là aussi, Hachem ne vous demande pas l'impossible, c'est ça qu'on dit. Mais par contre, il vous demande d'être sérieux dans votre investissement dans la vie du clan Israël. Et si jamais il y a quelqu'un qui s'imagine qu'il pourrait échapper au clan Israël, pourquoi il peut penser ça? Parce que les clalotes, elles sont écrites de telle sorte qu'elles s'adressent au clan Israël dans sa totalité. Et donc, quelqu'un peut se dire, au fond, Hachem, ce qu'il ne veut pas, c'est que tout le peuple abandonne. Mais si moi j'abandonne, si moi je fais ce que je veux, je ne risque rien, parce que les clalotes, elles ont été dites au peuple tout entier. Si le peuple dans son entier ne suit pas, alors ils auront les tuiles qui vont leur tomber sur la tête. Mais moi, il va rien m'arriver. À titre individuel, je peux faire ce que je veux. C'est cette idée toujours de cette impression, cette fausse impression que on peut avoir en prenant appui sur les versets, évidemment. D'accord? De se dire, mais moi, je suis pas concerné. Pas concerné parce que ce qui a été dit seulement à l'échelle du peuple et pas à l'échelle des individus. Donc il se raconte des histoires. Il se raconte que, bon voilà, lui pourra échapper. C'est déjà, quelque part, c'est peut-être pire que le rachat de la Haggadah. Parce que le rachat de la Haggadah, il est bien un rachat, mais il est quand même à la table du Seder. Quand il y a pire, il y a celui qui ne vient pas. Celui qui se sépare complètement. Le Ouotsiet Asmominaklal en considérant dans son discours, dans sa façon de regarder les choses, mais il est quand même là, le rachat de la Haggadah. Tandis que celui-là, il se dit, bon, j'ai rien à faire, je veux sortir complètement, je vais aller pratiquer l'idolâtrie, etc. Je ne peux pas. On ne peut pas sortir de la condition de juif, c'est ça le problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est-à-dire que on pourrait dire très simplement, à partir du moment où un juif, il a des responsabilités, il peut pas dire au revoir, monsieur, dame, je vous laisse mes responsabilités. Tu es obligé d'assumer tes responsabilités. Et donc, tu peux pas sortir. Si tu le fais quand même, alors les clalotes viendront. Maintenant, on voit quand même tous les jours qu'il y a des gens auxquels les clalotes ne frappent pas alors qu'ils ont l'air de sortir complètement du clan Israël. Alors, d'abord, on n'en sait rien, et puis peut-être, on ne sait pas exactement comment les choses vont se manifester pour lui, pour sa descendance, etc. Et on ne sait pas. Beaucoup de choses sont dites de cette manière-là, mais elles parlent du Olam Haba, en réalité. Elles ne parlent pas du Olam Hazé. Bien qu'on ait l'impression que c'est de bon Olam Hazé, mais peut-être c'est simplement dans Olam Haba, au sens où... Si vous voulez, le Olam Haba, il faut pas l'entendre comme quelque chose qui viendra à la fin. C'est quelque chose qui vient maintenant, mais qui ne sera visible qu'à la fin. Mais toutes les années, la Gemara, elle dit, toutes les années, on est jugé sur Olam Haba. C'est-à-dire, on est jugé sur quel genre de personne on est. Est-ce que maintenant, tel qu'on est, voilà, on a Chelek Le'olam Haba. Toutes les années, ça peut être remis en question. Ça dépend qui on est, effectivement, ce qu'on est à ce moment-là. Et donc, c'est l'orientation générale, si on veut. Après, les problèmes matériels, c'est un autre jugement. Et le jugement à Rosh Hashanah, c'est un jugement sur Olam Haba. Et donc, ça, c'est ça qui est décidé complètement à Rosh Hashanah. Donc, quelqu'un peut s'imaginer.
Rav, est-ce que j'ai une question?
Oui.
Lorsqu'on est jugé à Rosh Hashanah sur le Olam Haba, ça veut dire ça veut dire qu'on est jugé pour
ça veut dire je voulais terminer.
Oui. En fait ça m'a échappé, excusez-moi.
Ok, alors je vais répéter. On est jugé sur Olam Haba, ça veut dire que, si vous voulez, chaque année, il y a un bilan qui est un bilan peut-être des fautes elles-mêmes, et puis qui est un bilan sur la position qu'on a par rapport à la royauté divine. Dans quelle mesure est-ce que j'accepte vraiment cette royauté divine? Bon, parce que très souvent, on se leurre. On dit, bien sûr, j'accepte, mais mon frère, en fait, c'est pas vrai. Si on les regarde un peu plus près, on n'accepte pas la royauté divine. Le grand problème, si vous voulez, l'acceptation de la royauté divine, c'est assez dur, mais c'est que c'est tout ou rien. Ça veut dire, même si on n'accepte pas tout, si on accepte 612 mitzvot et pas la dernière, enfin une, c'est comme si on n'avait rien accepté. C'est un tout. Je veux dire, cette idée d'un tout. L'idée d'un tout, elle était par exemple manifeste au moment des Aseret HaDibrot. Vous vous souvenez, si vous regardez le texte de la Parashat Yitro, vous verrez que quand Hachem a parlé les Aseret HaDibrot, il est dit d'abord qu'Hachem les a dites, et il les a dites tout en même temps. Ce qu'Hachem est seul à pouvoir faire. Il a dit les 10 paroles en même temps. Et nous, on n'a rien compris, évidemment, on ne peut rien comprendre. Et ensuite, il a déployé 1, 2, 3, etc. Mais elles ont été dites tout en même temps. Et à quoi ça sert de dire toutes ces paroles en même temps si on n'y comprend rien, si les hommes ne peuvent pas l'entendre? C'est écrit dans la Torah. D'accord? Parce que nous, on n'a rien entendu, parce qu'on ne pouvait pas entendre, c'est à la fois, mais c'est écrit dans la Torah que il a dit tout ça ensemble pour bien montrer que ça forme un tout. Tu ne peux pas faire ton marché dans la Aseret HaDibrot, mais comme la Aseret HaDibrot, ça représente toute la Torah aussi, tu ne peux pas faire ton marché dans la Torah, c'est ça le problème. C'est ce que beaucoup de gens font, et qu'on fait des fois sans s'en rendre compte. D'accord? Ça veut dire que certaines fois, il y a des mitzvot sur lesquelles on a fait l'impasse. Ou bien en se disant, ça c'est pas pour moi, c'est trop difficile, j'y arrive pas, ou bien, bon, c'est pas important, ou je sais pas. Enfin, toutes sortes de raisonnements tordus qu'on est capable d'avoir. Et on se rend pas compte, en fait, que ça forme un tout, et que, voilà, il y a certaines mitzvot, on se rend peut-être même pas compte qu'on les a négligées, et par conséquent, on n'a pas accepté les 613 mitzvot. D'accord? Donc, ça, si, de ce point de vue-là, on n'a pas vraiment accepté la royauté divine. La royauté divine, c'est toutes les mitzvot. Et donc, comme on n'a pas vraiment accepté la royauté divine, alors, cette position-là, de non-acceptation, etc., alors, on pourrait dire, bon, alors, ça y est, on est complètement disqualifié. Bon, c'est pas tout à fait comme ça, parce que Hachem est beaucoup plus généreux que cela. Hachem va pas regarder ce qu'on a fait, mais il va regarder notre potentialité. Alors, si on a commencé d'aller dans le bon chemin, on est dans le bon chemin. C'est pas quelqu'un qui dit, Bishrout, Libi, LR, froidement, il dit, moi, je ferai ce que je veux. Non. C'est vrai que peut-être on s'est pas rendu compte, mais peut-être qu'on est d'accord de se remettre en question et de se redemander est-ce qu'il n'y a pas des choses que peut-être même sans mauvaise volonté, mais peut-être au fond de nous-mêmes, on a pensé que ça c'était trop difficile et qu'on ne s'en occupe pas, etc. Donc notre position, elle est par rapport à Olam Haba, peut-être elle peut mieux faire en quelque sorte. Oui, non, ça vaut la peine d'investir encore une année dans cette personne, elle est peut-être capable de progresser. Alors bien sûr, il ne s'agit pas, c'est ce qu'on voit très bien, qu'Hachem ne nous demande pas l'impossible. Mais il faut savoir qu'il faut avoir confiance en Hachem, que s'il nous a demandé cela, c'est que c'est possible de le faire. Ça ne veut pas dire que ça va se faire facilement. Ça peut être difficile. Ça a toutes les chances d'être difficile. Mais il faut vouloir, il faut être dans l'optique de vouloir le faire. Se mettre sur la bonne trajectoire, en quelque sorte. Et c'est ça, probablement, ce jugement sur Olam Haba. C'est-à-dire, dans quelle mesure, par rapport à Olam Haba, c'est-à-dire, est-ce que je veux vraiment ce Olam Haba? Vous comprenez, quand la Gemara dit, celui qui pense qu'il n'y a pas d'Olam Haba, il n'en a pas. Si tu n'y crois pas, tu n'en as pas. Donc, quelque part, il faut se mettre en situation de Olam Haba. Olam Haba, c'est un monde dans lequel on a fait tout ce qu'il fallait faire, et maintenant on en est au salaire, la récompense finale, qui est la proximité avec Hachem. Alors, est-ce qu'on veut cela? Ou est-ce qu'on veut autre chose? Est-ce qu'on veut profiter de la vie de telle ou telle manière, comme les gens disent? Je veux pas me priver de ceci ou de cela. J'ai besoin de distraction, de voyage, de nourriture, etc. J'ai envie d'aller expérimenter telle ou telle chose, qui sont des choses qui seraient interdites, par exemple. Ok. C'est les tentations qui existent, qui peuvent être très très fortes. Il faut savoir, est-ce que on est parti dans l'idée de je veux accepter la totalité, j'accepte la totalité, et je vérifie que je n'ai pas laissé une systématiquement de côté, une ou deux, ou plus. Et c'est ça, Olam Haba, quoi. Je veux cette situation-là. Et ça se mesure chaque année. Chaque année, on va regarder si on a progressé dans cette construction de Olam Haba, en fait. On le construit, le Olam Haba. Indépendamment du jugement sur la conduite, effectivement, mais c'est est-ce que mon projet général, si on peut parler comme ça, est-ce qu'il va dans le sens du Olam Haba? C'est ça que vous vouliez demander? Si c'est non, alors dites non.
Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je voulais demander. C'est que j'ai du mal à voir le lien entre notre Olam Haba et notre Olam Hazé. Parce que quelque part, c'est nos actions qui nous apportent notre Olam Haba et qui nous rapprochent d'Hachem. Mais quelque part, notre rapprochement à Hachem, c'est dans le Olam Hazé qui se passe quand même. Donc, j'arrive pas à bien voir ces deux notions.
Bien sûr qu'il y a une façon d'obéir à Hachem, de pouvoir être aussi proche du modèle, pour être le fameux peuple d'Hachem, c'est vraiment être à la hauteur d'eux. Et maintenant, ça c'est ce qui nous est demandé, c'est la tâche qui nous est demandée maintenant. Mais à part ça, indépendamment des problèmes de mitzvot et de etc., mais de façon générale, quelle est mon envie, quel est mon désir en quelque sorte de Olam Haba? C'est indépendamment de, si vous voulez, à Rosh Hashanah, vous avez bien vu que on a travaillé sur Rosh Hashanah indépendamment des fautes, etc. On travaille sur quelque chose qui est quoi exactement? Accepter la royauté de Hachem, c'est pas simplement faire les mitzvot. On parlait pas de faire les mitzvot en tant que tel, simplement. Bien sûr qu'il faut les faire. Mais c'est autre chose. C'est vouloir cet autre monde, en fait. Ce monde qui est en train de se construire. C'est pas simplement qu'on construit au fur et à mesure, qui est un monde une forme de perfection. C'est-à-dire, voilà, on désire cette situation-là de proximité avec Hachem. Proximité qui ne peut pas se donner dans ce monde-ci, parce que dans ce monde-ci, on est avec des contraintes matérielles qui nous en empêchent. Donc, c'est une façon de se détacher. C'est dans ce détachement-là qu'il y a cette visée du Olam Haba. Un détachement des conditions matérielles. Dans les mitzvot, on peut on doit les faire avec le corps, etc. Donc c'est éminemment matériel. Olam Haba, c'est pas un monde matériel. Avec l'Olam Haba, c'est pas du tout matériel, c'est spirituel. Donc c'est quelque chose qui va avec un détachement de soi-même, en fait. Et c'est de devenir spirituel, si vous voulez. Aussi, alors, on ne peut pas complètement, parce qu'on est on est néanmoins dans ce ramassé. Alors, modulo cette question du corps, je vais donner un autre exemple. Chazal disent que, on peut l'entendre comme ça, les chassidim arishonim, c'est-à-dire des gens pieux, d'avant la période des maîtres de la Mishnah. On ne sait pas exactement de qui il s'agit, mais ces gens-là, ils étaient réputés pour, quand ils priaient, il y avait une heure de préparation, une heure de prière et une heure pour redescendre. Pourquoi il fallait redescendre? Parce qu'en réalité, quand ils ont prié, ils se sont complètement... Une farchim l'explique, une affaire. Dans la prière, tu te détaches du corps, en fait. Certains disent, tu dois t'imaginer que tu es au Betamigdash, peut-être même à un Betamigdash Shelmala, c'est quelque chose de très abstrait. Tu te détaches et tu ne t'occupes que, justement, de faire les choses pour Hachem. Quand on se détache, c'est se détacher de soi-même que d'être capable de s'occuper des autres de la même manière qu'on s'occupe de soi-même. C'est enlever cet attachement particulier qu'on a à soi-même. Vous comprenez? Et donc, ce que faisaient ces Hassidim Arishonim, il y avait tout un problème de détachement du monde pour commencer à prier. Ensuite, dans l'opération de la prière, ils montaient effectivement. Puis ensuite, ils étaient tellement hauts qu'ils ne pouvaient pas entrer, faire trois pas en arrière et puis ça y est, ils étaient dans le monde. Vous vous souvenez quand Shimon Bar Yochai est sorti pour la première fois de sa caverne, là où il a posé les yeux, il mettait le feu. Parce qu'il était tellement détaché des conditions matérielles qu'il considérait que tout ce qui n'était pas spirituel devait être détruit. Alors Hachem l'a dit, mais tu retournes dans ta caverne. Tu sortiras quand tu seras capable de regarder le monde. C'est ce qu'il a fait. Donc, il y a un détachement que ces gens-là avaient dans la prière. Ils avaient besoin d'une heure, comme quelqu'un qui a fait de la plongée sous-marine et qui ne peut pas remonter brusquement. Sinon, il risque d'y rester. Il est obligé de faire des paliers. Donc, ils avaient besoin d'une heure pour redescendre dans le monde. Pourtant, c'était l'opération prière, c'est une mitzvah. Mais dans la prière, il se passait quelque chose qui était, bon, on peut dire c'était extatique ou ce que vous voulez. La Gemara disait que Rabbi Akiva, il commençait la prière à un bout du Beit HaMidrash, il la finissait à l'autre bout. Il était, il était complètement détaché de son corps, quelque part. Donc le corps, donc c'est de ça qu'il s'agit, si vous voulez, ce détachement de soi-même, c'est-à-dire cette volonté d'être complètement spirituel, ou si vous voulez, ça commence par ce que je vous ai dit, de vouloir pour l'autre exactement autant que ce que je veux pour moi, et peut-être même plus, de comprendre que finalement tout ça, ce qui est important, c'est que quand il y a souffrance dans le monde, il faut penser, dit le Nefesh HaRaim, à la souffrance d'Hachem. La souffrance d'Hachem, quand quelqu'un fait une avéra, même si ensuite nous on est triste d'avoir fait une avéra, mais la souffrance d'Hachem parce qu'il s'est commis une avéra dans le monde, elle est tellement énorme qu'en réalité c'est de cette souffrance-là qu'on devrait s'inquiéter. Et c'est pour que cette souffrance-là cesse, qu'il faut prier. Que la souffrance divine, le tsar, la souffrance divine, qu'elle cesse. C'est ça la prière, bon, à un certain niveau. Et c'est pour ça que la prière, nous la faisons toujours au pluriel. Pourquoi la Amida est au pluriel? D'accord ? Parce qu'on ne prie pas pour soi. Alors, il y a des tolérances. Les tolérances, ça veut dire qu'on a permis, dans certains cas, d'ajouter, comme on dit, mais en abracha, ça veut dire, tu peux demander des choses qui te concernent plus particulièrement, dans la mesure où tu as prié sur ce sujet-là, pour la collectivité, pour HM, etc., tu peux ajouter quelque chose qui te concerne. En particulier, ça se fait pour la refoua Shlema, etc. En fait, la prière de refoua Shlema, elle n'est pas pour X, Y ou Z. Il y a une tolérance d'ajouter, en plus de la prière, c'est marqué, il y a Yiratson, tu vous demandais, effectivement, qu'Hachem donne la guérison à telle ou telle personne. Mais c'est vraiment une tolérance, parce qu'on n'est pas là-dessus, en fait. Ça ne veut pas du tout dire qu'on ne doit pas prier pour quelqu'un. On peut prier, mais dans la Amida, c'est autre chose qu'on est en train de faire. On prie pour les besoins du monde. On ne prie pas pour soi. On est en charge de prier pour les besoins du monde. Et c'est ça c'est ce côté-là, en fait, qu'il y a ce jugement sur Olam Haba. Toutes les années, on va regarder dans quelle mesure cette question-là m'importe. Alors, bien sûr, dans Olam Hazeh, ce qu'il faut faire, c'est faire les mitzvot. Mais d'une certaine manière, c'est pas le tout.
Cela veut dire que dans chacun de nos actes, en fait, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour les autres.
Oui, on peut, c'est pas dans chacun de nos actes, mais de façon générale, on doit se demander effectivement, est-ce que je me soucie des autres?
Et c'est quand on fait le « est-ce que je me soucie des autres », est-ce que c'est ça le rapprochement qui nous est demandé?
Ça c'est déjà se soucier des autres, comme je me soucie autant que je me soucie de moi-même, si vous voulez, c'est un chemin vers la reconnaissance, vers la spiritualité, en fait. Où on comprend que tout est en fait pour Hachem, si vous voulez. C'est-à-dire pour Hachem. Pour que le projet divin se réalise. Et on est tous au service de cela. Et comme chacun a une contribution, comme je vous ai dit, étant donné que la Torah n'a pas été donnée seulement, elle n'a pas été donnée aux individus, mais à la collectivité, parce qu'il n'y a que le clan d'Israël qui représente l'humanité. Abraham Avinu, il fait quelque chose qui normalement incombait à l'humanité tout entière. Il s'est engagé. D'abord, ça incombait à Adam, qui lui était l'humanité. Après, lui, ça va marcher, c'était l'humanité. Après, ça n'a pas marché à cause du déluge. On recommence tout avec Noir. Avec cette humanité-là, et ça marche toujours pas. Mais cette fois-ci, c'est presque un galoute. C'est la tour de Babel, c'est une forme de galoute. Les gens s'étaient tous rassemblés. Ça veut dire qu'ils avaient déjà fait une partie du travail. Ils avaient compris qu'il fallait se rassembler. Comme c'est ce que nous demandons à Rosh Hashanah à Kippour. V'yasuch ulam aguda echat lasot rotson chab levav shalem. Il faut que nous fassions une aguda, un groupe de gens différents les uns des autres, un bouquet, comme dans un bouquet de fleurs, qui n'est pas que des roses ou que des tulipes, etc., mais un bouquet avec des fleurs différentes, comme le bouquet du loulav. Vous avez un loulav, Hadas et Arabot, ces trois plantes complètement différentes qui ont des caractéristiques complètement différentes. On en fait un bouquet, et c'est ça la notion d'un, ça s'appelle une aguda. Et cette aguda-là, qui est l'aguda du monde entier, et bon, ils l'ont fait. Ils se sont rassemblés, mais ils l'ont fait contre Hachem. Ils l'ont fait pour faire le mal. Donc, ils avaient déjà compris quelque chose, mais ils n'ont pas pris le bon chemin, si on peut parler comme ça. Donc, maintenant, il s'agit de faire la même chose, mais pour le bien. La sotre tsonchab levav shalem. De faire d'un cœur entier, la volonté d'Hachem. C'est ça qui est demandé. C'est ce qu'on demande, que l'humanité arrive à le faire. À ce moment-là, on accède à une forme de spiritualité maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est ça, la spiritualité. Alors, bien sûr, ça implique de faire ce qu'Hachem nous a dit de faire dans ce monde. Mais il y a un souci qui va bien au-delà. Il ne s'agit pas du tout de négliger les mitzvot. Les mitzvot sont fondamentales, mais il y a autre chose, si on peut parler comme ça, qui est une recherche, effectivement, et ça se mesure une fois par an. Hachem le mesure une fois par an, et il le juge une fois par an, avec effectivement des... On juge sur les formes de potentialité, en quelque sorte, puisqu'on n'y est pas encore arrivé. Voilà, on va s'arrêter là.